Bonjour, le secrétaire général fera quelques remarques sur la séance du Conseil OTAN Russie qui vient de se terminer. Ensuite, il pourra répondre à quelques questions, monsieur le secrétaire général. Oui, bonjour, je viens en effet de présider une réunion du Conseil OTAN Russie. Il s'agit de notre deuxième séance cette année. Nos discussions ne sont guère faciles, mais elles sont importantes, surtout dans une période où les tensions augmentent. Nous avons abordé trois sujets aujourd'hui. L'Ukraine, le traité FNI et la transparence ainsi que la réduction des risques. L'Ukraine reste le premier sujet de discussion. Nous avons parlé de la situation sécuritaire dans l'est de l'Ukraine. Nous avons évoqué le manque de progrès sur la mise en œuvre des accords de Minsk ainsi que les tensions dans la mer d'Azov et les environs. Les alliés ont réclamé une fois de plus la libération des marins ukrainiens et la remise des vaisseaux saisis par la Russie en novembre dernier. Sur ces questions, l'OTAN et la Russie continuent d'afficher de profondes différences. Nous avons également abordé le traité FNI. Tous les membres du Conseil OTAN Russie s'entendent pour dire que le traité a joué un rôle crucial pour ce qui est de la sécurité euro-atlantique. Mais le traité est désormais en péril et malheureusement, rien ne permet d'espérer une quelconque percée et il reste très peu de temps. Aujourd'hui, les alliés ont appelé la Russie à revenir à la pleine conformité entièrement vérifiable avec le traité. La Russie a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne la mise en œuvre du traité. Et tous les participants ont exprimé leur ferme attachement à un système efficace de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. Mais nous devons nous préparer en vue d'un monde sans traité FNI, un monde qui sera beaucoup moins stable, qui sera moins stable pour nous tous. Nous avons parlé également de la transparence et de la réduction des risques. Nous avons eu un échange de briefing sur des exercices à venir. L'OTAN a présenté l'exercice Dynamic Mariner 2019, exercice maritime prévu au large de l'Espagne. Et nous avons présenté une synthèse de l'exercice Trident Juncture 2018. Et la Russie nous a présenté les exercices Center et Union Shield. De tels échanges sont très importants dans le cadre de notre dialogue. Ils permettent de réduire le risque de méprise ou d'erreur de calcul et je serai très heureux de pouvoir participer à d'autres échanges, à des séances à venir du Conseil OTAN Russie. Aujourd'hui, nous avons parlé d'importants sujets qui touchent directement la sécurité atlantique. Nous avons eu des échanges à la fois francs et nécessaires. Les alliés et la Russie ont des points de vue foncièrement divergents, mais nous restons attachés à la poursuite de notre dialogue, parce que sans dialogue, nous ne saurions résoudre nos divergences de vues. Je vous demande de lever la main et de vous présenter, ainsi que votre antenne médiatique, ici au centre Deutsche Welle. Terry Schulz. Question. Est-ce que l'OTAN envisage de renforcer ses capacités de défense antimissile étant donné les inquiétudes face à un éventuel déploiement de ces missiles russes qui sont en violation du traité FNI? Depuis 5 ans, vous êtes au fait de l'existence de ces missiles, mais quelles mesures prenez-vous concrètement à l'heure actuelle? Réponse. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de préserver le traité FNI. Il reste le temps nécessaire pour sauver le traité. Il serait tout à fait possible de préserver le traité si la Russie renoue avec la conformité. Il reste 4 semaines avant l'échéance du 2 août. Alors, de la part de tous les alliés, on a communiqué haut et fort le message de l'importance de sauver le traité FNI qui reste la pierre angulaire de notre sécurité. Et aux réunions des ministres de la Défense des pays alliés de l'OTAN, nous avons parlé des réactions de l'OTAN. Si il se révèle impossible de sauver le traité, si la Russie ne revient pas à la conformité, eh bien l'OTAN va réagir de manière unie, coordonnée, défensive. Et nous avons indiqué que nous n'avons pas l'intention de disposer des armes nucléaires en Europe. Nous n'allons pas réagir de la même manière à chaque geste de la Russie. Je ne reviens pas sur les détails des plans que nous envisageons. Notre principal souci reste le maintien du traité FNI. Si la Russie ne revient pas à la conformité, eh bien nous allons réagir, mais cela de manière défensive. En ce qui concerne la défense contre les missiles balistiques, eh bien notre dispositif de défense antimissile ne vise pas la Russie et n'a pas la capacité d'abattre des missiles balistiques intercontinentaux de la Russie. Ce système est orienté afin de faire face à des menaces qui se trouvent à l'extérieur de la zone euro-atlantique. Cela reste le cas. Ensuite, madame, si vous voulez bien vous présenter, Daria Grigorovia de la télévision nationale russe. Vous avez dit que la Russie a toujours la possibilité de sauver le traité, mais est-ce que les États-Unis doivent de leur part prendre certaines mesures puisque ce sont les États-Unis qui s'étaient retirés en premier du traité? Réponse. Si le traité est en péril, c'est à cause des violations par la Russie. Il n'y a pas de nouveaux missiles américains en Europe, mais on voit de nombreux nouveaux missiles russes en Europe, d'où la mise en péril du traité. La Russie viole le traité depuis plusieurs années déjà et nous avons exprimé nos préoccupations en tant que pays allié et l'OTAN depuis des années. Le président Obama, le premier, avait exprimé l'inquiétude des États-Unis face à ces nouveaux missiles et il avait bien souligné qu'à terme, la maîtrise des armements ne saurait nous protéger si une seule partie respecte ce régime. Alors si le traité est actuellement en péril, c'est à cause uniquement des violations répétées par la Russie du traité. Et comme le traité ne peut bien fonctionner s'il est respecté par une seule des parties, eh bien tous les alliés ont indiqué fermement que la Russie doit absolument cesser de violer le traité et renouer avec la conformité. Les alliés soutiennent la décision prise par les États-Unis d'entamer le retrait du traité. Ce faisant, nous donnons quand même une dernière possibilité à la Russie de renouer avec la conformité au traité parce que l'échéance est fixée au 2 août. Donc il reste une seule issue possible, à savoir que la Russie revienne en conformité avec le traité. Associated Press. Vous avez indiqué que vous ne voyez pas de signe d'espoir. Donc, je vous demande de confirmer qu'au cours de cette réunion, la Russie n'a nullement dit qu'elle était prête à revenir à la conformité. Elle n'a pas proposé non plus d'autres solutions pour nous sortir de cette impasse. Réponse, non, nous n'avons pas vu d'indication d'une quelconque volonté de la Russie de revenir à la conformité avec le traité. En fait, le problème, ce sont les faits que nous constatons sur le terrain, à savoir de nouveaux missiles de portée intermédiaire pouvant emporter des engins nucléaires qui ont été déployés par la Russie en Europe ces dernières années. La Russie ne donne aucune indication de vouloir retirer ou détruire ces missiles. Il serait possible de prendre de telles mesures en très peu de temps. En 1987, par exemple, la Russie a pu détruire des missiles de croisière de portée intermédiaire en l'espace de quelques semaines. Donc, il est tout à fait possible, à condition d'avoir la volonté de se faire, la Russie peut très bien, dès à présent, revenir à la conformité avec le traité et sauver ainsi le traité. Et cela peut très bien se faire en l'espace de quelques semaines, comme cela s'est vu par le passé. Europa Press. Oui, il semble en effet qu'il ne sera pas possible de sauver le traité si nous nous fions à vos propos. Alors, que se passera-t-il le 2 août? Est-ce qu'on va organiser une séance extraordinaire du Conseil OTAN russe, du Conseil de l'Atlantique Nord pour voir quelles mesures prendre et quelles sont les priorités à cet égard et quelles conséquences faut-il en tirer en ce qui concerne la maîtrise des armements et surtout tout pour ce qui est des perspectives de modernisation du traité START? Est-ce que nous ne nous engageons pas de fait dans une nouvelle course à l'armement? Réponse. Oui, les conséquences sont gravissimes parce que le traité FNI est une pierre angulaire et revêt énormément d'importance. Ce traité est désormais en péril et il reste très peu de temps afin de sauver ce traité. Et tout cela est on ne peut plus grave en ce qui concerne la maîtrise des armements, parce que le traité Feni a permis de réduire le nombre de missiles, mais plus encore d'interdire toute une catégorie de missiles de portée intermédiaire. C'est également très grave dans la mesure où cela mine la crédibilité d'autres traités. Et c'est pourquoi, notamment, les États-Unis et l'OTAN se doivent de réagir, parce que si nous acceptons que le traité Feni soit violé impunément, sans conséquence aucune, cela mine la crédibilité de tous les autres accords de maîtrise des armements. Alors, ces violations par la Russie du traité Feni, cela n'est pas uniquement problématique en ce qui concerne le traité Feni en soi, cela mine aussi la confiance que nous pouvons avoir à l'égard des autres accords de maîtrise des armements passés avec la Russie. D'où l'importance de réagir. Il s'agit de sauvegarder la crédibilité du régime de maîtrise des armements, et c'est pourquoi nous nous devons absolument de réagir devant de telles violations. Et nous persistons à vouloir sauver le traité. Je reconnais que de jour en jour, il devient de moins en moins probable de pouvoir sauver le traité avant l'échéance du 2 août. Mais jusqu'au 2 août, en effet, nous allons appeler la Russie à revenir à la conformité avec le traité. C'est le seul moyen de le sauver. Il faut absolument que la Russie respecte le traité si nous voulons le sauver. Nous avons d'ores et déjà envisagé certaines mesures, et diverses mesures s'offrent à nous. Si la Russie ne se conforme pas au traité, et c'était là l'un des principaux sujets abordés par les ministres de la Défense de l'OTAN la semaine passée. Pour certaines, ces mesures peuvent être prises très rapidement. Pour d'autres, il faudra plus de temps. Mais bien sûr, nous nous devons de réagir, notamment pour envoyer un message ferme à la Russie, pour dire que toute violation d'un accord de maîtrise des armements entraîne des conséquences. Et nous devons continuer à assurer la crédibilité de notre dispositif de défense et de dissuasion, y compris dans l'après-traité FNI, dans une situation où il y a plus de missiles russes qui peuvent atteindre des villes européennes dans l'espace de quelques minutes. Tout cela réduit le seuil de l'emploi de l'arme nucléaire. En situation de conflit, ces missiles sont à capacité double et difficiles à déceler. C'est donc une source d'inquiétude pour tous les alliés. La télévision géorgienne. Oui, monsieur le secrétaire général. Quand vous avez énuméré les sujets dont vous avez parlé, vous n'aviez pas parlé de la Géorgie, de la situation en cours, la violation du cessez-le-feu. Au mois d'août, cela fera 11 ans déjà depuis la guerre russo-géorgienne. Et cette semaine, il y a eu des pourparlers à Genève. Dans la foulée, le vice-ministre des Affaires étrangères, Karasine, a répété que la Russie ne voulait pas de la Géorgie au sein de l'OTAN. Oui, effectivement, on a évoqué le fait que la Russie a projeté des forces dans des pays voisins sans le consentement de ces pays, comme nous le voyons en Ukraine, où il y a eu l'annexion illégale de la Crimée, et le soutien direct des Russes envers les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Ça se voit en Transnistrie également, ainsi que dans certaines régions de la Géorgie. Et à maintes reprises, l'OTAN a exprimé son ferme attachement à l'intégrité territoriale de la Géorgie dans les frontières internationalement reconnues. Et la présence de forces de Russes dans certaines régions de la Géorgie constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale de la Géorgie. Nous soutenons tous les efforts destinés à trouver une résolution politique et négociée à la crise actuelle. Quant au droit pour la Géorgie d'adhérer à l'OTAN, les alliés de l'OTAN ont rappelé maintes et maintes fois leur position selon laquelle la Géorgie a tout à fait ce droit, parce que tout pays a le droit le plus strict de choisir sa voie. Donc, seule la Géorgie et les 29 alliés de l'OTAN peuvent décider quand le moment sera venu pour la Géorgie d'adhérer à l'Alliance et aucun pays n'a de droit de veto sur cette décision. Voilà, nous terminons là ce point de presse. Merci.